où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Mais qu'est-ce qui se passe donc aux États-Unis? Comment expliquer cette mouvance anti-queer qui prend tant d'ampleur? Puis, on va à Chicago rejoindre Chantal Nadeau, autrice d'un fabuleux recueil affamé aux éditions Amac. Et Chantal est également professeure en études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois. Alors, vous comprenez pourquoi on va y parler aussi. Et on reste dans le thème queer avec Marie-Ève Kinsley, directrice littéraire de 11 brefs essais queer. Et Brian Saint-Louis nous revient avec sa chronique « Elle comme dans lire ». L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où écrire, lire, ben, ça aide à déconstruire l'homophobie, la transphobie, la lesbophobie, la queerphobie, tout.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure que vous nous écoutez. L'autrice et comédienne Gabrielle Bouliane-Tremblay, dans un article qu'elle a publié, une chronique en fait qu'elle a publiée dans Le Devoir ce week-end, a dénombré plus de 400 projets de loi anti-queer aux États-Unis depuis le début janvier, depuis janvier de cette année même, là, seulement 400. Et encore samedi, des manifestants portant des drapeaux avec le symbole des nazis, s'identifiant comme tel d'ailleurs, le groupe qui s'appelle Blood Tribe, ces gens-là se sont présentés à un brunch de drag queen à Columbus, en Ohio. Des nazis. Complètement décomplexés. 2023. Et ces événements-là, ça se multiplie. Alors, pour essayer de comprendre tout ça, on reçoit Christian Tanguay, directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal. En raison de son poste, et aussi comme sœur Marie-Félicité du Mont-Royal, sœur de la perpétuelle indulgence, Christian est appelé à voyager beaucoup aux États-Unis et il est donc un témoin privilégié de cette société qui se radicalise de plus en plus. Bienvenue à l'émission, Christian.
Merci, bienvenue.
Donc, on utilise toujours le « il » et le oui. Les accords masculins parce que ce n'est pas la première fois que tu viens chez nous. 400 projets de loi anti-queer aux États-Unis, dont celui de l'Alabama, qui criminalise les traitements d'affirmation de genre chez les enfants. En fait, la pénalité va jusqu'à 10 ans de prison. Christian, comment on explique ça?
C'est assez incroyable ce qui se passe du côté américain. Puis, ça se passe dans vraiment plusieurs États, dans divers comtés. Puis, il y a beaucoup d'indépendance dans chacune des places. Puis, on voit que l'agenda, on aurait dit républicain, mais l'agenda de la droite, voire de l'extrême droite, prend de l'ampleur.
Ouais.
Puis c'est durant la présidence de Trump que beaucoup de personnes ont été nommées, beaucoup de juges, beaucoup de commissaires sur des conseils d'établissements scolaires. Puis on voit en ce moment les choses se mettre en action, leur agenda se mettre en place. Puis il y en aura d'autres. Là, on voit des executive orders qui sont sortis.
Ouais, c'est des espèces de décisions du gouverneur, c'est comme ça que ça se passe.
Et ils se donnent cette permission-là de faire ces executive orders-là. Après, ça va en cours, mais les prochaines élections vont arriver avant que ça soit étudié. Donc, ils gagnent du temps puis ils installent la trame de fond.
Et c'est parce que c'est pas le parti républicain qu'on a connu avant Trump. C'est vraiment l'empreinte de Trump sur cette formation politique. Et ils sont là.
Mais comment je pourrais dire? C'est comme, on pourrait dire, un 10% de la population américaine qui ont des valeurs extrêmement conservatrices, qui ont leur vision de ce que devraient être les États-Unis, puis qui prennent de plus en plus de place, puis ils font des alliances un peu avec la branche religieuse qui est très intéressée par le Parti républicain. Les personnes qui sont très fiscally conservative et toutes ces personnes-là un peu se pincent le nez en se disant, bon, il y a des choses qu'on aime plus ou moins qui passent par rapport aux droits civiques, mais pour leur agenda global, ils trouvent leur compte. Donc, il y a vraiment une minorité qui a réussi à se tramer des alliances autour d'elle pour faire avancer leur plan.
Alors, est-ce qu'on peut parler de... Quel est le rôle de cette droite religieuse? Parce que c'est à elle qu'on attribue beaucoup de ces choses-là. Est-ce qu'elle a vraiment un rôle à jouer et c'est quoi ce rôle-là?
Bien, on parle de la droite religieuse, mais il y a encore plus l'extrême droite qui n'est pas religieuse, elle. Donc.
Mais elle utilise beaucoup des choses religieuses.
Chacun, il y a beaucoup d'instrumentalisation entre chacun. Donc, dans le fond, ça touche les droits civiques. Donc, il y a eu. le Flower Power, où est-ce qu'il y a eu la guerre de Vietnam et tout. Puis les personnes de la population ont dit, c'est assez, nous on veut pouvoir décider notre propre vie, on veut pouvoir lire ce qu'on veut, on veut plus de liberté. Bien, ce mouvement-là a créé notre société qu'on connaît aujourd'hui, où est-ce qu'on a accès à peu près tout. On peut lire, on peut avoir un accès à des emplois, peu importe notre orientation, on peut lire à peu près tout. Mais en ce moment, il y a des gens qui décident, pour le bien de l'État, on va enlever les soutiens à l'affirmation de genre. Donc, il y a des lois qui sont passées qui vont dire à des médecins ou des pédiatres, malgré ce que votre ordre professionnel dit, malgré qu'il y a des études empiriques revues par des pairs qui vont dire les traitements d'hormonothérapie, les traitements de bloqueurs et tout, vous ne devriez pas faire ça parce que notre morale à nous dit que vous allez trop loin. Donc, c'est comme si le politique commence à dire au médical, vous avez maintenant de nouvelles lignes et vous ne pourrez plus donner ces services-là. Et on va mettre ça tellement terrible que si vous les donnez, vous pourriez avoir des sanctions, des pénalités, vous pourriez même aller en prison.
Ça met vraiment des médecins devant un drôle de dilemme dans ces états-là, c'est-à-dire de choisir entre faire ce que la science, ce que son engagement comme médecin, qui est de faire ce qu'il faut pour la santé
d'Hippocrate.
Oui, pour faire ce qu'il faut pour la personne, et de faire face à un emprisonnement. On parle de 10 ans de prison là, dans un état. Mais c'est quand même, ça fait peur, là. Et là, je vais aller un petit peu plus loin, parce qu'on va parler de Trump aussi, parce qu'on sait qu'il a quand même, ce président américain a réussi à cristalliser et mobiliser tout un groupe de fidèles. Et je dis ça, je vais reprendre ce que certains analystes ont dit. Ils comparent d'abord les adeptes du MAGA, Make America Great Again, c'est le slogan de Trump, et même ceux de QAnon à des sectes religieuses. Et comme celle d'abord des Davidiennes de Waco et celle du Temple du Peuple de James Jones. Je remonte loin, mais ces gens-là ont commis des suicides et des meurtres au nom d'une religion, au nom d'une secte. Alors, ces gens-là ont le cerveau complètement lavé et ils sont prêts à tout pour leurs idées, sans saugrenue. Alors, on fait face à des gens pour qui la vérité, c'est pas important, c'est leur vérité qui compte. Comment est-ce qu'on va faire avec tout ça, là?
Ben, je te dirais, pour les électeurs qui votent pour Trump, le personnage pour Écoute, des droites conservateurs là, qui sont vraiment et a vraiment des accros. Mais ce qu'il aime de cette personne-là, c'est qu'il livre la marchandise.
Oh oui.
Il y a un pouvoir de manipuler l'opinion publique, il y a un pouvoir de détourner, d'arriver à ses fins. Et je dirais qu'il y a une majorité de personnes de la droite qui devraient prendre le moment là, de faire un examen de conscience, à se dire, cette personne-là, OK, bon, il va dans mon sens de faire, admettons, baisser les charges fiscales. Mais est-ce que c'est au détriment de qui? Qu'est-ce qui se passe? Les populations LGBT, les personnes trans en ce moment, il y en a plein. Après, ce qu'on va découvrir, c'est qu'on se pensait épargné, et ben non, on va trouver que bon, on fait partie d'une minorité quelconque, puis on va payer le prix par rapport à ça.
Moi, personnellement, je vais le dire en tant que journaliste et en tant que professionnel, je suis une personne qui doit s'occuper des faits et de la vérité. Et quand je vous dis que Donald Trump ment comme il respire, c'est démontré, c'est prouvé. Et je ne peux pas lui donner le bénéfice du doute ou autant de temps d'antenne que je donnerais à quelqu'un qui a des vues plus normales de la société. Et cela dit, je ne suis pas contre la droite, moi, personnellement, puis la droite a le droit d'exister. Mais là, on est vraiment devant un politicien. Il est en fin de carrière, puis les gens sont encore prêts à le suivre.
Ben, puis la grande menace qu'il y a aussi, c'est...
On parle de 30% de la population,
oui,
mais quand
c'est
même...
C'est aussi dans le Parti démocrate.
Ouais.
Son adversaire n'a pas la puissance médiatique que l'autre personnage a. Donc, il y a vraiment des examens de conscience à faire à l'intérieur de cette autre structure politique-là pour essayer de ramener, défaire ce que Trump a fait. Ça va prendre 2-3 mandats de démocrate.
Oui, tout à fait. Pour remettre les choses, parce que là, il a complètement nommé les gens de la Cour suprême.
Exact.
Puis il n'y a pas rien que la Cour suprême de toutes les autres cours. C'est compliqué. le temps nous presse, puis je trouve que c'est important, là, toi qui voyages aux États-Unis, puis tu as beaucoup d'amis en tant que directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, mais aussi en tant que sœur, parce que je vois que tu voyages beaucoup en tant que sœur de la perpétuelle indulgence. Tu rencontres donc beaucoup de militants et de militantes des causes queer. Comment ils vivent ça? Comment ils vivent ça?
Ils vivent ça très dur. Puis c'est à deux niveaux, parce qu'ils ne veulent pas faire peur aux plus jeunes, à la génération qui s'en vient. Ils veulent qu'eux continuent à militer. Mais je dirais d'avoir vu le progrès et en même temps le retour de vague en dedans de 10 ans, 10-15 ans, c'est vraiment terrible.
Alors, est-ce qu'il y a une mobilisation là-bas?
Oui. Donc, il y a vraiment plusieurs groupes qui commencent à être plus vocales, de prendre plus de temps d'antenne, de passer les messages, mais en même temps, il y a un phénomène de chambre d'écho. Ouais. Ceux qui écoutent les nouvelles de la droite ne seront pas exposés. Ceux qui écoutent les nouvelles du côté gauche vont être surexposés.
Ouais, tout à fait.
Donc, il n'y a plus de territoire commun en tant que tel où est-ce qu'il y a des dialogues. Puis ça vient une fracture un peu qu'on voit à l'intérieur des États-Unis. Deux pays à l'intérieur du même, et c'est coupé par différents comtés, dépendamment si le comté est bleu ou rouge.
Dis-moi là-dessus, Christian, est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, nous qui sommes dans un pays un petit peu plus normal, bien que des fois je me pose des questions, là.
Ça serait de rester vigilant, puis de tout le temps apporter, de contrer la désinformation, parce qu'il y a énormément de désinformation où est-ce qu'ils vont monter en épouvantail des situations où vont prendre un cas extrêmement isolé puis monter ça en épingle, et s'assurer aussi que les partis qui représentent un peu plus les valeurs conservatrices, on reste en dialogue avec ces personnes-là, puis qu'on leur fasse comprendre. C'est pas un choix. Il y a certains argumentaires qui vont à travers les droits civiques, puis on doit dire qu'il y a une primauté des droits civiques par rapport à des doctrines religieuses. Donc,
Je vais terminer avec ça. Nous, au Canada, on devrait craindre ça? On commence à le voir avec tout le débat des drag queens, avec tous les mensonges qui sont proférés là-dessus. Là.
Mais c'est tout le temps voir comment les arguments de la droite percolent, la droite américaine vient teinter notre environnement politique. Donc, je crois que c'est vraiment de rester vigilant. Puis comme l'émission qu'on a en ce moment, où est-ce qu'on discute, d'inviter des personnes à débattre un peu plus publiquement, de s'assurer d'être vigilant, quels sont les débats qui sont menés au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc, nos groupes communautaires sont vraiment importants, surtout les groupes en défense collective de droit.
Bien, écoute, Christian, j'en prendrai d'autres, mais si le temps nous manque, évidemment. C'est toujours comme ça, cette émission-là. On a beaucoup de bons invités, de bonnes invités. On est toujours contents de les avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle donc que tu t'appelles Christian Tanguay. Tu es directeur général du Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal et Sœur Marie-Félicité du Mont-Royal de la perpétuelle indulgence.
En bref.
On l'a mentionné un peu plus tôt, un groupe d'environ 20 nazis a protesté contre un brunch de drag queen à Columbus, en Ohio, samedi dernier. Le groupe nazi Blood Tribe a brandi des drapeaux noirs portant des croix gammées blanches et une banderole sur laquelle était écrit « There will be blood », il y aura du sang, à l'extérieur du restaurant qui accueillait le brunch des drag queens destiné à collecter des fonds. Le brunch avait pour but de récolter de l'argent pour le Kaleidoscope Youth Center, un centre communautaire d'accueil pour les jeunes homosexuels qui propose des programmes de santé, d'éducation et de formation professionnelle. La police a empêché les nazis de perturber le brunch. Selon un rapport de la GLAAD, la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, les événements de drag ont fait l'objet de menaces et de violences au moins 124 fois en 2022 aux États-Unis. Ces manifestations se sont multipliées alors que des politiciens républicains accusent les drag queens de préparer et de sexualiser des enfants en vue de les violer. Source LGBT Nation.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Ma prochaine invitée se retrouve à l'émission aujourd'hui grâce à une erreur de communication la semaine dernière, parce qu'elle devait être à l'émission la semaine dernière. Mais finalement, ce délai fait en sorte qu'elle se retrouve tout de suite après une entrevue où on a parlé, comme vous l'avez entendu, de la radicalisation de l'extrême droite aux États-Unis, qui a pris la population queer comme sa nouvelle cible. J'avais invité donc l'auteur, l'autrice Chantal Nadeau pour parler de son recueil de poésie Affamé, publié aux éditions AMAC, ce qu'on va faire. Mais avant, parce que Chantal est aussi professeure au département des études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois, j'ai fait une traduction libre du département depuis 2009. Elle vit donc à Chicago où on la rejoint. Bienvenue Chantal à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
Ben merci de m'inviter, hein. Je suis très contente.
Ah ben c'est un plaisir pour nous. Alors, à chaque fois que nous avons une nouvelle personne invitée à l'émission, on lui demande toujours quels pronoms et quels accords elle veut ou il veut qu'on utilise.
Ah, moi je suis vraiment moi j'utilise le she, he, elle, hein, parce que aussi c'est mon côté. Si on pouvait sortir un nouveau pronom pour fag.
Ah oui.
Parce que c'est ça que je décrivais dans mon premier recueil, Les Troués. I'm a fag dyke.
J'adore.
Okay, alors, mais il n'y a pas de pronom encore, mais il faut peut-être le sortir. Voilà. Alors, c'est elle.
Elle, il n'y a pas de trouble. De toute façon, peu importe les accords et les pronoms, c'est dans quoi tu te sens confortable qui est important.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est un chant. Bon, on va avec ça.
Okay.
Alors, voilà.
Chantal, tu vis, on peut le dire, au cœur de l'action, c'est vraiment un gros mot. C'est comment le climat aux États-Unis pour les personnes de nos communautés?
Bien, je te dirais que ça joue. C'est sûr qu'avec l'élection de Trump en 2018, ça a été comme une claque en pleine gueule. Si c'est pas un coup de poing dans le front, là, ils vont être très québécois. Ça va dans les deux sens. Il y a un mouvement qui se mobilise énormément pour repousser la droite républicaine très conservatrice, hein. Mais en même temps, il y a comme un désengagement de la gauche parce que tu sais, c'est épuisant, hein.
Oui.
C'est le macro et le micro.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que aux États-Unis, la Cour suprême a des pouvoirs incroyables, mais Trump est encore plus intelligent. C'est que les juges d'État ont encore plus de pouvoir que la Cour suprême.
C'est vraiment...
Dans le quotidien des LGBTQ. Okay?
C'est épuisant tout ça, finalement.
Oui, alors c'est ça qui est arrivé, c'est que les gens pensent toujours à la Cour suprême, mais il ne faut pas oublier à quel point... Les cours d'État, il y en a quand même 50 aux États-Unis, plus deux territoires, ont été assaillis par les républicains. Et c'est ça qui permet en ce moment qu'il y a 12 États aux États-Unis qui sont très, très régressifs par rapport aux droits des trans.
Aux droits des trans, mais même à toutes sortes de choses, parce que là, on associe, c'est rendu une grande soupe, c'est les drag queens. Puis en fait, c'est inquiétant parce que c'est ça, ces gens-là vont nous avoir à l'usure parce que les gens tombent au combat parce qu'ils sont fatigués de repousser. Toi, justement, comment tu vis ça personnellement?
Ben, je te dirais que Trump a été élu, là. La journée que Trump et le lendemain de la journée que Trump a été élu, j'étais à Montréal pour un congrès. Et j'ai jamais été dans un avion qui était aussi tranquille. Il n'y avait pas un son. Tout le monde était en état de choc. C'était de National Women's Studies Association, qui est un des plus grands trucs gender studies au monde. Et le silence total. Alors, le vivre au quotidien, et moi, je suis une des rares qui est contente de la pandémie.
Ah oui, pourquoi?
Ben, parce que ça a fermé la gueule à plein de monde. Tu comprends? Mais tu sais, je suis très honnête, ça a fait comme on a un break.
Mais en fait, c'est ça, mais là, maintenant que la pandémie, nous, on le voit au Québec, la pandémie est moins importante, alors tout le mouvement complotiste, QAnon et compagnie, ben là, maintenant, sont retournés vers nous, et on le voit. Aux États-Unis, j'imagine que c'est la même chose. Est-ce qu'on doit craindre cette mouvance-là? Puis ajoutons à ça, parce que pas juste les droits des personnes queer, c'est aussi les droits des femmes, on l'a vu avec l'avortement, là.
Non, et les deux sont liés. Hein. Moi, oui. Je dis toujours ça à mes étudiants, je dis, on ne peut pas voir l'un sans l'autre. Et puis ça, c'est quelque chose qui est comme... Parce qu'en même temps, c'est comme on veut protéger le fœtus. Quand le fœtus est sorti de belly, right?
Oui.
Quand le quand le bébé est sorti, là, soudainement, il ne peut pas être trans. Alors, il n'y a aucune protection. Alors, c'est ça qui est intéressant dans le cas des États-Unis. Tant que tu es dans le ventre de ta maman, ça va, mais quand tu sors, good luck. Oui,
tout à fait. Tout à fait. Bon. Je vais aller rapidement là-dessus, parce qu'on va parler de ton livre, mais dans tes cours que tu donnes à l'université, j'imagine que tu rencontres aussi des gens de toutes ces origines-là, de nos communautés. Comment ça se parle, comment ça se vit dans la salle de cours chez toi?
Ben, en tout cas, en ce moment, je donne un cours qui, moi, me fascine. C'est mon cours favori depuis 3 ans. Ça s'appelle « Sexe, pouvoir, politique ». Et là-dedans, j'ai des gens qui viennent de... Parce qu'on oublie toujours que les États-Unis, c'est un État militaire.
Ouais.
Donc, j'ai des gens qui sont dans l'armée. J'ai des trans. J'ai des... de tout. Et ça marche.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai réussi à le faire marcher. Et même dans les moments où c'est très intense, qu'on a des discussions, je dirais que 2 choses que j'admire des gens qui viennent de l'armée, ils ont été brûlés. Et ils écoutent. Et ils sont contents d'être dans mon cours. Moi, c'est un cours au choix. Hein. C'est pas un cours obligatoire, c'est un cours au choix. Et à chaque session, j'ai au moins deux personnes qui viennent de l'armée. Et ça me fascine à chaque fois parce que j'ai jamais vécu ça dans ma vie à Montréal. Et j'ai des trans. J'ai 3 étudiants trans sur un groupe de 15. J'ai 3 étudiants trans qui sont en transition.
Et tout ce monde-là réussit à se parler et à s'écouter surtout.
Oui, et c'est pas toujours évident, mais il y a une espèce de respect qui m'étonne. Et je me dis, c'est comment ça qu'on n'a pas ça quand on sort de la salle de cours? Je me dis, alors qu'eux, ils s'entendent, ils se respectent, sont super fins entre eux, entre eux et elles, et je me dis, et elles, et je me dis, bon, comment ça qu'on ne peut pas faire ça? Alors, c'est ça.
Je vais juste terminer là-dessus. Est-ce que, si ça continue ou ça s'envenime, est-ce qu'on pense-tu à devoir revenir au Canada?
Ah, c'est la question de ma mère.
Ouais. Ah, ben, ça, j'ai pas parlé à ta mère pourtant.
Non, mais je t'ai envoyé. Et je te dirais, si Trump est réélu, là, moi, je m'emballe. Ah, parce que les gens n'ont aucune idée. Et j'ai parlé de ça à mon amoureux, je lui disais, les gens n'ont aucune idée c'est quoi de vivre ici quand Trump, au sommet de Trump, là. Mm-hmm. On est avec Biden en ce moment, là.
Ouais.
L'élection de Trump, là, ça a été comme... C'est même pas un coup de poing sur la gueule. Là. C'est comme... kneecap job, c'est tout. Là. C'était vraiment épouvantable.
Alors, on t'a invité pour parler de ton recueil, affamé.e.s, il faut le dire, parce que t'as quand même mis un titre non-genré, qui est publié aux éditions AMAC. Alors, je l'ai lu, évidemment. Ce sont de très beaux textes en prose. Et la protagoniste, je pense, s'appelle Whitehall, comme on dirait hibou blanc, c'est ça, relate des rencontres. Je pense que c'est des rencontres vraies, certaines sont imaginées. Et tout ça se passe sur une plage près de Chicago. Et selon le communiqué de presse, c'est toi, ce Whitehall. Alors, tu confirmes?
Oui, ça c'est mon éditrice Anne Pérouse. Hein, oui. Ouais. Ben, le Whitehall aussi, comment qu'on peut le définir, c'est la fin des neiges.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, alors... Et ça, je l'ai choisi parce que ce qui est intéressant avec La Fin des Neiges de White Owl, c'est que sa tête pivote à 270 degrés. Et ça, j'aimais beaucoup l'idée du panorama. Là. C'est pas juste comme tu regardes une affaire, c'est comme...
Oh! Oui, parce que dans ton livre, on a l'impression justement qu'on fait vraiment le tour de la plage.
Oui, c'est ça. Et ça, c'était voulu.
Oui.
Et le White Owl, pourquoi je l'ai choisi en anglais? C'est que, bon, tu sais, je suis dysiglotte, hein, je veux dire, je vis dans les deux langues,
ouais.
Et je les assume, puis pour moi, c'est, donc, on pourrait parler de ce qui se passe au Québec avec la question de la langue, puis tu sais, je suis une francophile vendue, mais en même temps, des fois, je fais comme, bon, on se calme.
Ouais.
Alors, donc, c'était ça, fait que moi, je suis l'espèce de personnage, le témoin, mais aussi la narratrice.
Oui. Il y a vraiment des histoires de rencontres. Il y a beaucoup de queer là-dedans. C'est important pour toi d'en mettre. Je fais toujours ça en entrevue. Je ne dévoile pas là, les textes comme tels parce que je me dis que c'est aux gens d'acheter le livre et de le lire. Mais il y a quand même beaucoup de queer. C'est important pour toi, ça?
Ben oui, parce que même quand ils ne sont pas queer, je sais qu'ils sont queer. Ça, je disais ça à une amie dernièrement. J'ai dit, moi, j'imagine. Tu sais, les gens s'imaginent toujours que les gens sont straight en partant. Ouais. Moi, c'est le contraire. Moi, ils sont toujours queer. Puis là, je suis toujours un peu étonnée quand ils ne sont pas, puis c'est pas grave.
Ben, c'était un peu ça que j'ai ressenti en lisant, parce que quand les personnages s'avéraient ne pas être queer, c'était comme une drôle de réaction de la part justement de Whitehall. Écoute, on arrive à la fin de l'entrevue. Jusqu'à maintenant, là, quels sont les échos que tu as eus de la réception, là, autant par les critiques, les lecteurs? Je sais que tu es au Salon du livre de Québec, entre autres. Comment les gens reçoivent ton livre?
Je pense que ça sort bien. Je pense que chez les jeunes, ça sort super bien. Puis Lulu, hein, oui. Qui est mon caractère... était mon personnage qui a été génératrice oui. du livre. Ben Lulu, tout le monde aime.
Oui, oui, on l'adore, oui.
Et Lulu, c'est le personnage trans. Et Lulu, je la vois tous les jours.
Chantal, c'est incroyable. J'aurais pu te parler pendant des heures et des heures de temps. On ne se connaissait pas. Puis c'est le fun, la magie des télécommunications et de la visioconférence, de pouvoir se voir quand on fait l'entrevue. Je te remercie beaucoup. C'est clair qu'on va te réinviter à l'émission. Alors, merci encore d'avoir été là.
Ben merci. Hein, je te remercie. Là, puis écoute, bonne chance avec le reste de l'émission. Et puis, on se parle bientôt.
Très bientôt. C'était donc Chantal Nadeau, autrice et effectivement professeure à l'Université de l'Illinois à Chicago.
Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, @dmchabotauteur.
Eh bien oui, on parlait un peu de toutes ces manifestations anti-drag queen, juste pour vous dire qu'il y a eu deux pétitions, une qui était contre, une qui était pour, mais celle qui était pour a quand même 10 000 personnes presque de plus. En fait, oui, plus de 10 000 personnes plus que celle d'Éric Duhaime. Alors bon, ça dit ce que ça dit. Après la pause, on va continuer de parler de littérature, parce qu'on en vient d'en parler un petit peu avec Chantal Nadeau. 11 brefs essais queer avec sa directrice littéraire Marie-Ève Kingsley, et c'est la chronique Elle comme dans Lire avec Brian Saint-Louis qu'on rejoint à Québec. Alors, après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Eh bien, dans cette deuxième partie de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on va beaucoup parler de littérature. Tiens, toute la demi-heure va quand même parler de littérature. D'abord avec 11 brefs essais queer et sa directrice générale, Marie-Ève Kingsley. Très intéressant comme livre. Alors, et on va en reparler de ce livre-là, d'ailleurs, dans la chronique littéraire de Brian Saint-Louis, la chronique « Elle comme dans lire ». Alors, c'est au sommaire de cette deuxième partie.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Les éditions Somme Toute proposent un nouveau livre qui s'appelle 11 brefs essais queer. En fait, c'est comme un manifeste pour la communauté queer, en fait pour nos communautés. C'est un collectif donc d'essais très intéressants et très divers les uns des autres. Et pour en discuter, j'ai avec moi la personne qui était directrice de cette publication qui s'appelle Marie... Pardon, Marie-Ève Kinsley. Bienvenue à l'émission, Marie-Ève.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour. Alors, nous, on commence toujours les émissions, nos entrevues avec nos invités qui sont nouveaux ou nouvelles, en leur demandant quel pronom et quels accords on utilise avec toi.
Moi, le « elle » me convient très bien, le « yel » également.
Parfait. Ben, d'abord, d'où est venue cette idée de publier ce recueil?
L'idée, c'est de faire entendre les magnifiques voix queer qu'on a au Québec.
Mm-hmm. Et il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. En fait, c'est aussi de rendre compte de la pluralité de ces voix-là. C'est pas une voix queer, c'est des voix queer. On voit dans le collectif la multiplicité de ces voix-là, des identités dans le queer. Donc, au départ, moi, mon idée, c'était de demander à des artistes que j'aimais déjà beaucoup, que j'admirais déjà beaucoup, autant émergents que connus, de leur demander, en fait, de me parler de leur expérience queer du quotidien, leur expérience du corps. Tu sais, vraiment, qu'est-ce que c'est d'avoir une posture queer dans le monde? C'est quoi notre rapport au monde à partir de cette posture-là? Pour que les gens puissent, pas nécessairement comprendre, mais voir un peu, lire ce que c'est.
Oui, parce que clairement, oui, c'est sûr que pour que les gens comprennent, il faut qu'ils en lisent beaucoup, mais ça, c'est déjà un bon début, hein?
Mm-hmm.
Alors, dans ce recueil, avant d'entrer dans tous les sujets, il y a une chose que j'ai beaucoup remarquée et que j'ai même appréciée, les styles d'écriture de ces essais. Mm-hmm. C'est vraiment, il n'y a pas un style pareil. Puis là, on parle vraiment là, de grandes différences. Hein? On était de la poésie à les... Parle-moi un peu comment tu as fait ce choix-là ou comment ça a fonctionné.
Oui, bien en fait, pour moi, déjà, un essai... souvent, on va lire des essais, on va penser que c'est des trucs un peu plus savants, avec la question subjective de l'essai, certes, mais moi, je voulais que, en fait, la forme que prennent les textes, puisse bien servir le propos. Donc, mm-hmm. Je trouve que pour parler du queer... Je trouve qu'on ne peut pas nécessairement rester dans les formes rigides existantes. Donc, moi, j'ai dit aux auteuristes qu'ils pouvaient avoir des formes éclatées, qu'ils pouvaient mélanger les formes, qu'on aille dans des formes hybrides. Parce que ce que je voulais, c'est que le propos, la forme soit le plus fidèle possible au propos. Et pour nommer des réalités qui ne sont pas normées, je pense qu'il faut utiliser des formes qui ne sont pas normées. Donc, voilà, d'où la multiplicité aussi des formes. Donc, poésie, récit de soi... des citations, des parties un peu plus théoriques, savantes et tout. Donc, un beau mélange de ça.
Et ça ne déstabilise pas le lecteur ou la lectrice ou le lecteur en même temps, parce que moi-même, là, je l'ai lu, puis c'est ça, ah, un autre style. Parfois, il faut s'adapter, mais en même temps, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, je trouve que ça nous ouvre à comprendre et à accepter ce que la personne nous dit quand on... Tu sais, quand tu es déstabilisé un petit peu, puis tu commences à lire...
Oui, déstabiliser un petit peu les lectoristes, en fait. Oui, c'est sûr que c'était aussi quelque chose qu'on voulait faire. Mais c'est vraiment, tu sais, pour bien servir le propos queer, moi, j'ai besoin, et les personnes qui écrivent aussi dans ce collectif-là, d'une grande liberté pour s'exprimer. Puis d'une absence de rigidité, en fait. Puis mm-hmm. Je suis bien contente d'avoir eu cet espace aussi là, pour le faire de cette façon-là.
Une dernière question là-dessus, c'est quoi d'être queer? Parce oui. que vous, dans le livre, on en parle de ça.
Bon, ben être queer, premièrement, c'est ce qu'on offre, nous, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais ce qu'on offre, nous, c'est une définition de queer qui n'est pas du tout limitante. Parce que, justement, le queer, c'est une identité qui va parler de plusieurs identités complexes à la fois. Donc, c'est un terme qu'on peut dire quand même valise pour des identités qui sont complexes et qui ne sont pas nécessairement dans la norme, ou c'est des identités qui sont dans la norme, mais qu'on va venir flouter. Ça
oui.
se dit-tu, flouter?
Okay,
on,
oui,
va,
oui, ça
on,
dit, oui.
on va venir les mélanger, on va se les réapproprier, effectuer des renversements de ces identités-là. Et c'est ce qui fait la belle diversité queer, je trouve.
Tu as réuni dans ce livre des auteurs, autrices et auteurs de nos communautés, et certaines sont des personnes très connues. Je pense d'abord à Gabrielle Boulian-Tremblay, qui a gagné le prix des libraires avec son
oui,
roman « La
moins.
Fille d'elle-même » il y a 2 ans.
Oui.
Alors, Gabrielle raconte quoi dans son essai?
Gabrielle raconte, en fait, elle nous parle d'amour. Son essai s'appelle « Floraison
mm-hmm. ».
C'est une belle image pour parler justement de la réalité des personnes trans. qui effectue finalement souvent ce qu'on peut appeler une renaissance, mais le mot renaissance, je le trouve faible, parce que c'est des personnes qui se sont toujours senties comme elles se définissent aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si c'est une renaissance, mais c'est de pouvoir mettre en adéquation le corps, l'esprit et tous les aspects de sa vie finalement dans l'identité choisie, dans l'identité viscéralement vécue aussi. Donc, Gabrielle nous parle de ça, d'une histoire d'amour, certes avec une autre personne, mais aussi, surtout, d'une histoire d'amour avec soi-même.
Tout à fait.
Et je pense que les personnes trans qui s'affirment dans leur identité de choix, dans leur sexe de choix, c'est une belle preuve d'amour qu'elles font pour elles-mêmes. Donc, c'est ce que Gabrielle nous raconte. Et Gabrielle, non seulement son roman est extraordinaire, mais c'est aussi une personne qui milite beaucoup pour les droits des personnes trans et queer. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je suis vraiment contente qu'elle ait accepté de faire partie de notre collectif.
Et son texte est quand même très émouvant.
Oui.
Et tu sais, l'émotion, c'est universel. On n'a pas besoin d'être une personne queer ou trans pour comprendre ce qu'elle écrit. Je vais t'amener à une autre personne que j'aime beaucoup, qui est très connue aussi, Kamala Mackerel, qui nous raconte quand même une autre histoire.
Kama, oui, complètement autre chose, une autre forme aussi, une forme super éclatée qui... Kama très fidèle à elle-même avec des propos tels que les corps îles, les corps comme les îles,
oui.
La fluidité, beaucoup de performances dans les pages aussi. Quand on ouvre les pages, là, les phrases sont performées comme une scène,
oui.
Comme la page comme scène. Pardon. Et c'est ça. Et elle nous parle beaucoup du passé. Des luttes qu'on a dû livrer, mais aussi de quand on était sans nationalité, sans identité, comment on était bien finalement de pouvoir vivre librement cet aspect queer qu'on avait en nous sans le nommer de cette façon-là, finalement.
Il y a Mazinour Simon-Henri qui parle d'un autre sujet. Moi, ça m'a vraiment marqué, cette histoire de voyager à l'extérieur, quand on est une personne qui ne s'identifie pas binairement, et comment Yael a dû vivre ça. Et c'est un récit de soi, mais un récit de soi qui en dit beaucoup.
Oui, le texte de Simon est vraiment merveilleux dans la mesure où on voit les difficultés de l'identité queer, certes, au jour le jour, dans les voyages et tout ça, mais on voit aussi à quel point c'est beau. On voit la beauté aussi de ça dans son texte. Je trouve que ça traduit beaucoup, beaucoup de choses. Ça dit, son texte, à Simon, dit beaucoup de choses. Yael a voyagé en Égypte et a dû, parce que pour Yael, c'était vraiment une question de passing, qu'on dit, là,
pour pouvoir être accepté.
Passer homme blanc, cisgenre, pour pouvoir entrer dans un pays qui, autrement, ça aurait été plus difficile, voire impossible. Donc, pour elle, lui... C'était quelque chose de... Ça a été quand même quelque chose d'ardu, mais elle avait quand même son talisman. Elle en parle dans son texte, son talisman de l'hippocampe queer et ses livres, ses magnifiques livres qu'elle avait apporté avec elle, lui. Donc, son texte, c'est chanté, c'est récité, c'est un magnifique texte aussi.
Je vais aller brièvement sur un autre texte qui... En fait, tous les textes m'ont interpellé, mais on n'a que 12 minutes d'entrevue, alors j'en ai choisi quelques-uns. Éric Leblanc a quand même aborde la question du polyamour. Mm-hmm. C'est très controversé de nos jours, mais on s'en va là. Et ça, comment as-tu décidé de choisir ce thème-là, ou c'est lui qui l'a choisi?
En fait, c'est Éric lui-même qui a décidé de son thème. Moi, je laissais les gens... libres de leur choix de thème. Je voulais juste que leur histoire vienne vraiment de leur corps puis de leur posture dans le monde, finalement. Par contre, je suis allée les chercher, ces gens-là, en les connaissant un peu.
Ouais.
Puis j'étais très heureuse qu'Éric choisisse de nous parler du trouble. Et ce que j'admire d'Éric, c'est son extrême intelligence, mais son ironie aussi.
Ouais.
Moi, j'ai ri dans ce texte-là. J'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire. Le fait qu'ils prennent aussi quelque chose qui parle de la représentation finalement des personnes polyamoureuses, polyamoureuses, queer, avec un film en fait super populaire qui aurait pu être une bonne option là, pour nous montrer un trouble, puis que finalement ça c'est ça. Fait que son texte nous parle de ça en gros là, puis ils sont tous les textes sont vraiment bons. Là, j'en parle, puis je pourrais même pas dire lequel. Genre, j'ai pas de préféré.
Non, je te donnerai jamais ça. Je vais terminer avec une question d'une petite minute qui nous reste.
Déjà.
Tu connais un peu notre contexte actuel où c'est un peu toxique, un peu violent pour nos communautés.
Oui, beaucoup.
Ton livre et toi, là, comment, par rapport à ton livre et par rapport à toi, comment tu te sens là-dedans?
Notre livre. Notre livre traduit notre posture queer, montre les belles voix qu'on a, montre aussi qu'on existe, qu'on veut pas se conformer, qu'on veut être les gens qu'on est, puis qu'on est valide là-dedans. Qu'on a le droit, puis qu'on va continuer, on lâchera pas.
Et t'as pas trop peur pour ton avenir personnel dans tout ce qui se passe là?
Personnel, pas tant que ça, collectif. Bon, c'est pas de la peur, non. Moi, je continue à avoir espoir, puis je vais continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire perpétuer la voix queer, les voix queer, puis...
Alors, 11 brefs essais queer, publiés aux éditions Somme Toute, sous la direction littéraire, c'est ce qu'on dit, de Marie-Ève Kinsley. Oui, je ne me suis pas trompé, je suis en train de me remettre en question. Alors,
c'est
merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne lecture aux gens qui vont se procurer ça.
Oui, bonne lecture. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci d'avoir été là.
En bref.
4 mois après la fin de son cauchemar, Brittany Griner, détenue pendant 10 mois en Russie, retrouve progressivement les habitudes d'une joueuse de basket de haut niveau. Par contre, elle ne jouera plus à l'étranger. Et elle consacrera son temps plus aux personnes détenues injustement hors des États-Unis. À l'approche du coup d'envoi de la saison 2023 de la Ligue nord-américaine de basket féminine, elle rencontrait la presse. L'une des figures de la communauté LGBTQ+ aux États-Unis s'exprimait pour la première fois publiquement depuis son retour aux États-Unis après avoir été condamnée en Russie à 9 ans de prison pour trafic de drogue, selon les autorités russes. Griner va devoir se passer des revenus que lui procurait le fait de jouer pour une équipe russe entre les saisons de basket aux États-Unis. Or, les basketballeuses ont besoin d'un deuxième boulot car elles sont définitivement moins payées que les joueurs masculins. L'iniquité quand inutile. Source, Fugue.
Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Et on continue, tiens, en littérature. Vous le savez, tout le monde, hein? J'adore lire, je suis écrivain aussi, alors c'est clair que les livres prennent beaucoup de place dans cette émission, mais parce que les livres sont importants. Et j'ai même un chroniqueur qui parle de livres, il s'appelle Brian Saint-Louis, et sa chronique, elle, hein, comme LGBT, mais elle comme dans lire. Comment ça va, Brian?
Ça va très bien, et toi?
Oui, ça va bien, ça va bien. On rejoint donc Brian à Québec. Brian, justement, on vient de parler d'un livre que tu as beaucoup aimé, je crois. Qui s'appelle 11 brefs essais queer. On vient d'en parler avec la directrice littéraire. Qu'est-ce que tu en penses de ce livre-là?
Bien, drôle de coïncidence, parce que je ne savais pas que tu allais recevoir Marie-Ève Kinsley pour en parler. Je vois le plan de l'émission, puis j'ai dit, bon, c'était justement lui que j'étais en train de terminer. J'ai décidé de vous en parler quand même. Ça va rajouter peut-être un autre petit point de vue. 11 brefs essais queer, c'est chez Somme Toute, comme vous avez mentionné tout à l'heure, les deux en entrevue. Queers. Moi, j'étais intéressé à lire ce livre-là parce que là, on est dans une émission où on parle de beaucoup de ce mot-là. On l'entend souvent, on l'entend de plus en plus. Moi, je suis un peu comme... As-tu vu la nouvelle édition de Chronique de San Francisco qui a été faite sur Netflix il y a 1 ou 2 ans?
Oui, j'ai vu ça, oui.
Une nouvelle série. Et à un moment donné, le personnage de Didi se fait dire « Ah, finalement, toi aussi, t'es un peu queer. » Et Didi, elle répond quelque chose comme « Mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'habite en San Francisco et j'ai toujours aucune idée de qu'est-ce que ce mot-là veut dire. » C'est un peu moi, ça, Didi. Queer, on entend ça de plus en plus, beaucoup plus, mais c'est un mot que j'ai encore de la misère, moi, à circonscrire, à bien comprendre, à expliquer. Donc, je me disais, en plongeant dans cette lecture-là, je vais en apprendre plus, justement. Je ne pourrais pas dire à la lecture, au final, que je peux en dire beaucoup plus là, sur qu'est-ce que c'est être queer, mais c'est intéressant quand même de se plonger. 11 brefs essais, c'est justement très bref. J'ai trouvé, ça va très vite. C'est 11 textes différents, et comme venait de le dire Marie-Ève, justement, d'horizons très différents quand même. On le voit justement à quel point le spectre des gens queer, c'est large, ça va un peu partout. C'est peut-être ça qui est difficile pour certaines personnes à bien comprendre, à se figurer. Là, on est parfois, on baigne dans des milieux de gens qui sont très ouverts à ça, qui comprennent, qui fréquentent des gens. Ce n'est pas toutes les strates de la société, par contre, je crois, qui ont le même degré de compréhension.
Tout à fait. Ouais.
Donc, c'est ça, j'aurais aimé ça que peut-être cet essai-là aide à ouvrir plus de portes. Mais là, la forme, on l'a mentionné, on dit sur le titre, c'est des essais, mais c'est beaucoup justement dans la forme, on l'a mentionné avec Marie-Ève tout à l'heure, beaucoup de poésie, beaucoup de styles d'écriture différents. On est dans de la prose, on est dans des textes en anglais, il y a des tons plus posés, il y a des temps plus revendicateurs, il y en a qui ont des postures un peu plus de combat. Et c'est ça, c'est toutes sortes de gens, là, des gens, on parle de sexe assigné à la naissance, des personnes racisées, des familles choisies, des transitions, des physiques différents, le passé autochtone. Il y a beaucoup, beaucoup de stock dans ce tout petit ouvrage. Moi, j'ai certains textes que j'ai préférés par rapport à Marie-Ève, justement. Mathéo Pinault qui parle de sa mastectomie qui était difficile.
Oui, c'est vrai.
Ça, j'ai trouvé ça très touchant. Gabriel Bouliane Tremblay, moi aussi, c'est drôle, on est revenu sur les mêmes textes que moi aussi j'avais pointé, qui parle de sa recherche d'amour. Éric Leblanc sur le polyamour. Ça, c'est des textes que j'ai trouvés peut-être plus parlants, mais là, on peut me juger justement parce que moi, c'est ceux-là que j'ai trouvé plus facile à comprendre, qui est un peu plus près de moi. Donc, c'est des textes que je comprenais mieux. Ce que je retiens du livre, par contre, c'est que c'est ça, être queer. Je ne suis toujours pas capable de mettre une définition précise.
Je pense qu'il n'y en a pas vraiment.
C'est ça, mais il y a quelque chose qui réunit ces gens-là, c'est le besoin de liberté, le besoin de comprendre qui ils sont.
Et le rejet des normes sociales.
C'est ça, sortir des cases, sortir de se permettre d'être libre, d'être qui ils sont. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation populaire à faire quand même sur ces thèmes-là, ces idées-là, ces sujets-là. J'espère qu'on va continuer à en parler, rendre ça plus accessible, démocratiser plus ça, pour que plus de gens continuent d'en entendre parler, que ça ouvre des portes, que ça ouvre des yeux, que ça ouvre des consciences. Le livre, c'est ça... J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus accessible pour monsieur et madame tout le monde, pour mieux faire comprendre ces enjeux-là, mais ça reste très intéressant. Peut-être qu'il faut le relire justement pour bien comprendre puis continuer d'y réfléchir. Chacun des auteurs a sa petite histoire et même si sur le coup, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout saisi, toutes les nuances, tous les détails, de se replonger là-dedans, chacun laisse quand même une trace, un petit souvenir. On y repense à ces textes-là. Donc, très intéressant. Peut-être pas nécessairement ce à quoi j'aurais pensé en le lisant, mais j'ai trouvé ça fascinant. Puis c'est bien d'entendre ces voix différentes-là, justement, qui nous parlent de leur réalité, qui nous parlent de leur quotidien, qui nous parlent des choses qu'ils vivent. C'est ça qui permet l'ouverture, c'est d'apprendre qu'est-ce que les gens vivent, qu'est-ce qu'ils font, de pouvoir se mettre à leur place. Ça reste très intéressant dans le livre, mais peut-être justement là, le relire pour mieux le comprendre. Lisez-le, ce livre-là. 11 brefs essais queer chez Somme Toute, comme on disait, là, dirigé
par... En fait, moi, je fais toujours une blague quand des gens me demandent c'est quoi. Parce que tu sais que moi, je me définis comme un homme queer plus qu'un homme gay. Mais ça vient toujours un peu dans notre façon de voir les choses aussi. Puis quelqu'un me disait, mais queer, ça veut dire quoi? Puis là, je leur disais, bien, queer en anglais, c'est étrange. Puis en français, l'équivalent, ça serait tapette. Et ça aussi, c'est un terme qui est péjoratif. Puis moi, j'ai décidé, ça m'arrive très souvent de dire aux gens, je suis une tapette. Ça fait que ça choque un peu, puis c'est un peu ça. Allez, il nous reste 5 minutes. On va parler de ton autre titre que tu nous proposes, que je n'ai pas lu. Alors, tu vas me faire découvrir Carson McCullers et moi de Jeanne Chapland aux éditions du Portrait.
Jeanne Chapland aux éditions du Portrait. Connais-tu Carson McCullers?
Oui, pas tant que ça, mais oui.
Ben c'est ça, moi aussi, pas tant que ça. C'est un nom que je connaissais, je croisais. C'est une écrivaine américaine, années 40, années 50, contemporaine de Harper Lee, qu'on connaît un peu plus ici au Québec, là, celle qui a écrit « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ». C'était une contemporaine. Elle écrivait aussi des romans. Elle a fait « Le cœur est un chasseur solitaire », Frankie Adams. Peut-être ceux qui vont plus allumer quelque chose. « Reflet dans un œil d'or » qui était porté à l'écran avec Elizabeth Taylor et Marlon Brando. C'est dans ce film-là où il est amoureux d'un autre soldat. C'est une adaptation d'un livre de Carson McCullers. C'est une écrivaine qui a eu énormément de succès dans le temps, mais qu'on a peut-être un peu oublié. Et Jen Shepland est une archiviste américaine qui est née aux États-Unis, qui habite maintenant plus dans le Sud. Elle est tombée sur des archives qui parlaient de la vie de Carson McCullers. Et elle s'est rendue compte que cette femme-là, ben, elle avait beaucoup de choses en commun avec elle. Et là, le ton du livre, on est un peu dans un peu ceux qui ont lu là, Une partie rouge de Maggie Nelson. C'est un peu une biographie où la personne qui écrit le livre est quand même très présente dans l'histoire. On suit le cheminement de l'autrice aussi. Carson McCullers, on se rend compte qu'elle était lesbienne. C'est la théorie de Jen Shepland et on est d'accord avec elle un peu après avoir lu le livre. Parce qu'elle se met à relire avec ses yeux de femme lesbienne à elle. Elle fouille dans ses boîtes, elle lit ses lettres, elle voit ses histoires, elle dit « Mais voyons donc, cette femme-là était absolument lesbienne. » Mais on voit que l'histoire a comme un peu lissé son histoire. Elle, il faut dire qu'elle s'est mariée deux fois avec le même homme, qui c'était peut-être un mariage de convenance. Lui aussi, il avait probablement une vie pas très claire. Mais comme si on avait lissé ça et oublié l'histoire, mais pourtant, là, on se rend compte que Carson McCullers... elle habitait dans une commune à New York avec plein d'artistes homosexuels. Elle avait des passions orageuses avec des femmes. Elle se tenait avec Tennessee Williams. Elle sortait avec la petite fille de Thomas Mann. Elle croisait Patricia Highsmith, ça et là, parce que c'était tous des petits milieux. On la suit dans ses résidences d'écriture dans ce livre-là. Elle s'habillait de façon masculine. Elle traitait de questions homosexuelles dans ses romans. Il faut dire qu'elle a aussi une vie très difficile. Elle buvait trop, était super malade. Elle a vécu le macartisme où on cherchait un peu des ennemis de l'État, qui étaient souvent des personnes trop libérales, donc souvent des gays. On suit toute son histoire. On suit la vie de Jen Shepland, qui cherche, elle aussi, à s'affirmer au travers de ce livre-là, s'accepter comme lesbienne. Et là, ben justement, c'est drôle que j'ai lu ce livre-là quelques jours après les journées de la visibilité lesbienne,
ouais.
Parce que l'histoire de Carson McCullers qu'on voit dans ce livre-là, c'est justement pourquoi les femmes homosexuelles dans l'histoire, on a perdu souvent leurs traces. On a cherché à nier le fait qu'elles étaient lesbiennes. On dit « Ah, il n'y a pas de preuve qu'elles l'étaient ». Ils n'ont pas toujours eu la visibilité qu'elles auraient dû. Puis là, c'est un peu une recherche historique dans une grande écrivaine américaine de revoir cette histoire-là et de voir qu'elle était vraiment lesbienne. Ça finit bien, il y a une histoire.
Mais l'histoire était... excuse-moi, je t'interromps, mais on ne parle pas beaucoup des lesbiennes, mais on ne parle pas des femmes en général dans l'histoire, ouais. Parce que c'est les hommes qui écrivent l'histoire.
On parle peu des femmes, on parle peu des lesbiennes.
Encore moins. Moi, j'ai appris tellement de choses. Je suis allé voir un spectacle qui s'appelait Ciseaux, qui était par les deux comédiennes Geneviève Labelle et Marie-Noëlle Rousseau, qui sont aussi des drag kings dans une autre carrière. Et c'est incroyable. J'écoutais les choses qu'ils nous racontaient sur scène. C'était un spectacle de comédie. Mais c'est incroyable comment est-ce qu'on ne connaît pas l'histoire des lesbiennes. En fait, on ne connaît pas l'histoire des femmes. Alors, c'est intéressant de voir que quelqu'un... Alors, tu vois, ça va être un autre livre à lire pour moi. Que quelqu'un
On plonge un peu dans ces histoires-là du temps, de comment les communautés faisaient pour se tenir entre eux, se reconnaître. C'est des bouts très intéressants de réfléchir, c'est ça, à la visibilité lesbienne dans le film, dans le livre. C'est intéressant. Et ça donne le goût d'aller lire justement les romans là, de Carson McCullers qu'on connaît peut-être pas assez. Mais vraiment, elle semble un personnage assez fascinant que peut-être l'histoire a un peu oublié. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça, justement, de redécouvrir comment ça se passait dans ce temps-là et de voir que, c'est ça, les traces des femmes, c'est important. Puis justement, moi-même et nous ici à l'émission, j'ai parlé beaucoup de livres pendant la saison, mais peu de livres avec des lesbiennes, avec des femmes. Faudrait que je fasse plus de recherches, justement, pour avoir plus de personnages lesbiens et d'écrivaines dans mes prochaines chroniques.
Bon, on pourra utiliser peut-être le livre qui s'appelle « Les archives lesbiennes » qui vient d'être publié aux éditions Saphic, qui est de le Réseau des lesbiennes du Québec à sa maison d'édition, justement. Et en fait, je vais interviewer l'autrice de ce texte. Je sais que c'est un livre donc qui est traduit, si je comprends bien. Et qui a traduit ce livre? Je n'ai pas vu dans tes notes.
C'est traduit par Hélène Cohen, et puis c'est ça, les éditions du Portrait, une petite maison d'édition que je connais peu, mais c'est un ouvrage qui a eu beaucoup de visibilité aux États-Unis. Elle a quand même eu un très gros succès avec ce livre-là. C'est ça, puis justement, on est dans ce style littéraire là, de biographie où l'écrivaine qui fait le livre se met en scène aussi. Puis là, puis vous parliez, refaire la boucle, on parle beaucoup des États-Unis. Vous parliez de ça en début d'émission.
Ouais.
Person Nicholas vient du Sud. Jen Chaplin, elle est dans le Sud. Et justement, là, on est dans cette espèce de climat américain un peu malsain. Il y a un paragraphe, un chapitre au complet justement sur l'élection de Donald Trump où Jen Chaplin, elle était très inquiète de ses droits et de ses libertés après l'élection de Donald Trump. Elle se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Puis en se questionnant justement sur les lesbiennes et tout ça, leur visibilité, leur place dans l'histoire, qu'est-ce qui allait arriver avec Donald Trump. Fascinant pour plein d'angles, ce livre-là. Voilà.
Ouais, puis il y a de quoi s'inquiéter maintenant avec cette espèce de retour du balancier de la droite. Ben, écoute, Brian Saint-Louis, merci beaucoup. C'était un plaisir, comme d'habitude.
Ça me fait plaisir. À la prochaine.
Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, @dmchabotauteur.
Et voilà, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce premier lundi du mois de mai, lundi 1er mai, la fête des travailleurs. Bonne fête des travailleurs si vous êtes à l'extérieur du Canada ou de l'Amérique du Nord. Merci de votre fidélité et on va remercier nos invités, Christian Tanguay, Chantal Nadeau, Marie-Ève Kinsley et Brian Saint-Louis. Et je remercierai l'équipe plus tard parce qu'on manque de temps.